Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce radio-journal. Le gouvernement de la RDC et la FCM23 sont invités à se comporter en véritable artisan de la paix en mettant l'intérêt du peuple au centre de leurs discussions qui reprennent en Suisse en ces débuts de semaine. C'est une des recommandations des acteurs sociaux. Vous suivrez en substance l'un d'eux dans ce radio-journal. En seulement 3 mois, soit de décembre à février 2026, plus de 1100 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Le pic a été atteint en février avec un total de 629 cas. La surmilitarisation de la zone est une des causes de cette situation. Abat la violence, place à la cohabitation pacifique et au règlement pacifique des conflits. Ce message est adressé aux habitants du groupement de Miti après le drame enregistré dans ce coin du territoire de Kabare le week-end dernier où un homme a tué par machette sa femme, ses 2 enfants, 2 voisins avant de subir lui-même le même sort du fait de la justice populaire. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
Le gouvernement congolais et la FCM23 qui se retrouvent à partir de ce lundi 13 avril en Suisse pour la reprise des pourparlers de paix doivent saisir l'actuelle opportunité pour soulager les souffrances des populations meurtries par la guerre. Cette recommandation est adressée aux 2 parties par Oswald Rubaja, analyste et acteur de l'ancien civil du Sud Kivu, à la suite de la reprise du processus de Doha délocalisé en Suisse. La guerre a trop duré, indique Oswald Rubaja, qui invite les 2 antagonistes à se comporter en véritable artisan de paix, en mettant au centre de leur discussion l'intérêt du peuple congolais. Oswald Rubaja.
La guerre fait des ravages, la guerre continue à faire des souffrances terribles aux populations congolaises. Tous ces bombardements par-ci, là, dans des zones densément peuplées, ce sont des morts de plus, des morts inutiles. Les Congolais ont tellement souffert, continuent à souffrir, qu'il est important que les 2 parties puissent se ressaisir rapidement et comprendre que les intérêts des Congolais devaient être au centre de leurs discussions. Et si les intérêts des Congolais, la souffrance des Congolais se trouve au centre de leurs discussions, il n'y a pas de quoi multiplier les divergences. Les Congolais attendent ces raisons des partis qui soient réellement des artisans de paix. Et non plus des belligérants. Tous devaient comprendre finalement que le peuple en a marre. Et donc, la recours des pourparlers entre Kinshasa et Goma, cette fois-là en Suisse, mérite d'être encouragé et mérite d'être suivi. Et il est important que les populations congolaises puissent vraiment faire pression sur les 2 parties. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel vibrant à tous ces négociateurs, à tous les décideurs, à ceux qui interviennent dans toutes ces initiatives de paix, de comprendre que les populations congolaises n'ont pas besoin d'aller à l'extrême. Et qu'il est temps vraiment d'arrêter la guerre, il est temps de se mettre sous la table. Question que les uns et les autres manifestent la volonté réelle de le faire.
Oswald Rubaja, acteur de la société civile du Sud Kivu et la FCM23, a transmis à Mohamed Bin Abdelaziz Al-Khulaifi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, les noms des 12 membres composant sa délégation à ses assises. Il s'agit des 6 négociateurs avec René Abandi comme négociateur en chef et 6 experts. Parmi ces derniers apparaît Claude Ibalanki, dernièrement ambassadeur itinérant de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Ibalanki apparaît pour la première fois comme membre de l'AFCM23. Fin janvier dernier, il a été visible aux côtés des dirigeants de l'AFCM23 à Goma, affirmant qu'il fait une offre à Corneille Nangaa. Il avait également dit qu'il pourrait intervenir comme consultant externe auprès de l'AFCM23. Aujourd'hui, expert pour le compte du M23, Claude Ibalanki a été aussi auparavant coordonnateur du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, un dispositif chargé du suivi des engagements régionaux en matière de paix et de sécurité dans l'est de la RDC. Outre Claude Ibalanki, Franck Mouedi Malifa Apenela est aussi dans la délégation de l'AFCM23. Il était vice-ministre à la coopération internationale et à l'intégration régionale de 2014 à 2016, vice-ministre du plan de 2016 à 2017, puis ministre du tourisme du 10 avril 2017 au 9 septembre 2019. Côté gouvernemental, la composition de la délégation n'a pas encore été dévoilée. Et sur le terrain, depuis la matinée de ce lundi 13 avril 2026, des nouveaux combats opposent des groupes Wazalendo aux troupes de l'AFCM23 dans plusieurs plusieurs villages des hauts plateaux de Calais au sud de Kivu. Explication Alain Kabika.
Parmi les axes concernés figurent Tchambombo dans les villages Nyalougoucha en groupement des Iralo, où des éléments Ouazalendo tenteraient de déloger les éléments de l'AFC M23. Des sources locales indiquent que sur l'axe Katasomoa, précisément à Nyawaronga et Nyamugari, dans les villages de Murangu en groupement des Mubuku, ainsi qu'à Mwamidjui dans les villages Kusiza, groupement des Iralo, la situation reste toujours tendue. Alors que le dimanche 12 avril a été marqué par un calme précaire, ces combats ont repris de nouveau avec une forte intensité, témoigne un défenseur des droits humains dans la zone. Depuis plus de 4 semaines maintenant, toutes les écoles restent fermées dans la zone. Les écoliers et élèves sont dans un risque élevé de connaître une année blanche, avec notamment des interruptions régulières, s'inquiète un parent d'élève qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. Entre-temps, plusieurs villages du groupement des Iralo, à l'instar de Kassirou, Kachebere, Ruchuro, Kiramborangira, Mutale, Chunguti, Matutira et Bunje sont toujours vidés de leurs habitants. La plupart d'entre eux ont pris la direction du groupement des Walu-Walunda dans les territoires voisins de Walikale au nord Kivu. Ici, l'on rapporte la présence d'au moins 48 900 déplacés qui vivent dans des conditions précaires. Pendant que les négociations de Doha entre l'AFC M23 et les gouvernements de la RDC reprennent en Suisse ce lundi 13 avril 2026, des organisations de défense des droits humains et acteurs de la société civile estiment qu'il est temps de mettre fin à la violence armée qui ne fait qu'accentuer la souffrance de la population. Ils estiment que c'est le moment ou jamais pour les belligérants de penser à mettre en œuvre les engagements contenus dans des accords préliminaires signés à Doha et aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les cessez-le-feu et l'ouverture des couloirs humanitaires. Entre-temps, dans les groupements des Moudaka en territoire des Kabare, des habitants dénoncent la chasse à l'homme après les combats entre les combattants Ouazalendo et les troupes de l'AFC M23 la semaine dernière vers les villages de Kajiji et dans les hauteurs. Des citoyens bien connus dans la zone, comme ne faisant pas partie d'aucune bande armée, seraient en train d'être arrêtés puis amenés vers une destination inconnue. Plusieurs familles dénoncent déjà l'absence continue de certains de leurs membres et voudraient voir les autorités s'impliquer pour stabiliser la zone.
Et plus de 1100 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans la ville d'Ouvira en seulement 3 mois, soit de décembre 2025 à février 2026. Ces violences sexuelles auraient augmenté en raison de la surmilitarisation de la zone, notamment par la présence persistante des éléments armés dont certains échappent à tout contrôle. Ces statistiques sont contenues dans un rapport présenté la semaine dernière lors d'un atelier de sensibilisation organisé par l'Union des femmes des médias pour la paix UFMP Sud Kivu. Le contenu avec Myriam Moufano.
Parmi ces cas, 183 ont été recensés en décembre, 320 en janvier, avant d'atteindre le pic en février 2026 avec 626 cas, portant le total de 1129 victimes. Les rapports mettent en évidence une aggravation de la situation suite à l'insécurité aux difficultés d'accès aux soins. De nombreuses survivantes ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate en raison du manque de structures fonctionnelles, dont personnel qualifié et des ressources suffisantes. Selon des sources médicales locales, c'est le 30% des victimes ont reçu des kits essentiels pour prévenir des infections sexuellement transmissibles, dont le VIH et les grossesses non désirées. La majorité en restait privée, faute de disponibilité et d'accès rapide aux services de santé avec toutes les conséquences possibles, note le rapport. Par ailleurs, plusieurs cas ne sont pas signalés à cause de la stigmatisation, de la peur de représailles et des obstacles liés à l'accès aux soins, ajoute le même source. Face à cette situation, l'Union des femmes de Médias pour la paix IFMP Sud Kivu sur la sonnette d'alarme. Sa coordinatrice, Joséphine Mongoubi, plaide pour l'implication des autorités dans le but d'assurer la protection des victimes, garantir leur prise en charge et lutter contre l'impunité. Il en parle dans cet élément.
Il faut aussi insister sur la prise en charge holistique des victimes. On a un problème de la prise en charge judiciaire actuellement. Il y a même des organisations qui interviennent, mais peu sont dans l'aspect juridique. Vous savez que si les bourreaux ne sont pas sanctionnés, ils ne s'inquiètent pas, ils pourront continuer avec des cas de violences sexuelles, des cas de violences basées sur les genres. Si les autorités pouvaient s'impliquer davantage et se rassurer que l'appareil judiciaire travaille comme il faut, que les auteurs de ces violences sexuelles sont poursuivis par l'État, ce sera vraiment un offre de soulagement.
Elle insiste également sur la nécessité de restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo afin de mettre fin aux violences liées au conflit, soulignant que le retour de la paix est essentiel pour garantir la sécurité des femmes et mettre fin à ces atrocités.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
La suite de ce radio-journal, les activités se sont déroulées calmement dans la cité de Minova en territoire de Calais lundi 13 avril 2026. Ceci, contrairement aux informations propagées dans les réseaux sociaux faisant état d'une psychose dans la zone après des cas supposés d'enlèvement des hommes et jeunes par les troupes de l'AFSAM 23 le dimanche 12 avril dernier. Il s'agit des fausses informations, précise Justin Kamanda, secrétaire administratif du groupement de Bouzi, joint lundi 13 avril 2026. Par la rédaction de Radio Maendeleo. Il précise que l'action de dimanche 12 avril était un couvre-feu des routines à l'occasion duquel tous les hommes ont été invités à se rassembler au stade Mille Arbres de Minova pour suivre le message des autorités en place. Ici, tous les hommes ont été sensibilisés sur différentes thématiques, notamment le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'interdiction de collaborer avec les bandes armées, mais aussi l'amour du prochain. Le secrétaire administratif du groupement de Bouzi, Justin Kamanda, appelle la population au calme et à ne pas suivre les messages mensongers propagés dans le souci de créer un climat de terreur. Justin Kamanda et Jean au téléphone.
Si je précise bien qu'à Minova, la situation est calme. Dimanche, on s'est réveillé tous les matins. Et on était en train de sensibiliser tous les hommes de se retrouver au stade tous les matins pour qu'ils puissent participer à un meeting. Nous nous sommes orientés là-bas. Bien sûr qu'il y avait d'autres membres de sécurité pour essayer de sensibiliser. Personne n'a été bousculé. Il y a des messages qui ont circulé dans des raisons comme quoi il y a enlèvement. Ça, je précise qu'on n'a pas enlevé quiconque. Et moi, personnellement, je me suis orienté au stade. Alors, la sensibilisation concernait certaines questions, dont les vivre ensemble, parce que Minova, c'est une zone qui a un nombre important d'habitants. Mais aussi, on a sensibilisé les jeunes à ne pas se joindre aux groupes armés ou se comporter comme des malfrats et demander à tout celui qui a un mauvais comportement d'échanger, parce qu'il n'est pas bon que dans une zone où on a besoin d'une stabilité, qu'il y ait des voleurs, qu'il y ait des gens qui communiquent très mal sur la zone Dominova. Et nous, on s'est dit que c'est une manifestation qui s'est bien passée. Il y a eu quand même un bon encadrement. Pour bien sûr qu'ailleurs, ceux qui n'ont pas été au stade de penser que peut-être il y a d'autres agendas. Mais nous qui étions là-bas, on a vu les mamans se contenter de voir leurs hommes retourner à la maison. Et d'ailleurs, je suis sorti les derniers au stade pour rassurer que je n'ai pas vu un acte ignoble.
Justin Kamanda, secrétaire administratif du groupement de Bouzi. Et les habitants du groupement de Miti, ses environs dans le territoire de Kabaré, sont appelés à éviter toute forme de violence, mais plutôt privilégier la cohabitation pacifique et le règlement pacifique des conflits en toutes circonstances. Ce message est du chef de groupement de Miti, Chirimwami Kwigomba Mambe, à la suite d'un drame survenu le week-end dernier dans le village de Kajusha, où un homme a tué à coups de machette sa femme, ses deux enfants et deux voisins venus pour apporter du secours. Alors que certaines sources disent que ce drame serait lié à une incompréhension familiale, d'autres parlent d'un trouble mental de la part de l'auteur. Le chef du groupement rappelle qu'en cas de conflit, la population doit faire recours aux autorités locales, notamment les Nyumbakumi, le chef des villages et chef de centre, qui peuvent régler le problème localement et pacifiquement. En cas de persistance du litige, Chirimwami Kwigomba indique que d'autres instances existent et n'ont pensé aux actes violents. Il insiste sur le caractère sacré de la vie humaine et rappelle que nul n'est permis de se rendre justice. On l'écoute.
Nous continuons toujours à sensibiliser la population, leur rappeler que la vie est sacrée et comprendre que s'il y a un problème, il y a des antécédents, il faut directement voir le Nyumbakumi, le chef de sous-village, le chef de village, nous avons des chefs de centre et enfin les chefs de groupement. Cas où la situation complique, le chef de groupement va remonter directement aux autorités compétentes.
Nous restons toujours à Mitsi, en territoire de Kabare, précisément à l'Inera Mulungu, où un corps sans vie d'un jeune garçon a été découvert dans la matinée de lundi 13 avril 2026. Le chef de groupement de Mitsi indique que le jeune garçon aurait été tué par des bandits non identifiés. Au nom des frères Maruembe, le jeune garçon menuisait de son état et originaire du village de Nyamakana dans le groupement voisin de Bugore. Et toujours en territoire de Kabare, deux personnes ont été blessées par balle et plusieurs biens emportés au cours d'une attaque d'hommes armés non autrement identifiés dans la nuit de dimanche à lundi 13 avril au centre des négoces de Louis-I dans le groupement portant le même nom. Selon la société civile sous-nord de Louis-I qui nous livre l'information, les hommes munis d'armes blanches ont attaqué les paisibles citoyens dans leur maison aux environs des 0h30. Au cours de cette opération, ces bandits ont infligé des tortures à plusieurs habitants et blessé d'autres. Ces cas s'ajoutent à d'autres régulièrement enregistrés dans la zone, s'inquiète la société civile sous-nord de Louis par le biais de son président Didier Chiza Bayongwa. Celui-ci demande aux autorités de s'investir pour améliorer la situation sécuritaire dans cette partie du territoire de Kabare. Et renforcer la résilience des étudiants ressortissants d'Irambi Katana en cette période marquée par des défis sécuritaires et sociaux, c'est le thème au cœur d'une assemblée générale de l'Union des étudiants de Katana, UEK en sigle, tenue le dimanche 12 avril 2026 dans la salle Dominique Milani de l'ISP de Bukavu. Selon le président de cette structure, Franck Muzigirwa, cette rencontre a permis de mettre un accent particulier sur la résilience comme capacité psychologique et émotionnelle de surmonter des traumatismes, des chocs ou des situations stressantes dans le souci de se reconstruire et de se développer positivement malgré le contexte. Il ajoute que c'est également l'occasion de renforcer les échanges, la collaboration et la cohésion entre membres, tout en les sensibilisant à œuvrer pour la paix et le développement de leur milieu d'origine, le groupement d'Irambi Katana. À cette occasion, précise Franck Muzigirwa, 68 nouveaux étudiants ont intégré cette structure dans le but de redynamiser davantage les actions de développement au sein de leur entité. En plus de l'intégration des nouveaux étudiants, l'Assemblée générale a procédé à l'investiture de la brigade étudiantine de l'UEK composée des jeunes qui se chargeront des questions sécuritaires en faveur des membres. Franck Muzigirwa en parle.
Nous avons organisé cette activité, elle était dénommée Assemblée Générale. En cette activité, nous l'avons fait dans le but d'intégrer les nouveaux étudiants, mais aussi d'investir la brigade étudiantine de l'IEK. Nous avons beaucoup de nouveaux étudiants, mais nous avons intégré 68. Ces 68 qui étaient présents actuellement, c'est que nous pouvons dire, depuis que les contextes actuels se sont imposés, nous n'avons pas encore passé une Assemblée Générale. L'activité portait non seulement pour l'intégration de ces nouveaux étudiants et l'investisseur de ces brigadiers, mais aussi dans le cadre d'instruire ces étudiants, de comprendre la situation actuelle et de s'y habituer. Parce que le premier sujet qui a été donné, c'était sur le leadership, mais aussi la résilience. Donc que les étudiants restent résilients, parce que malgré la situation dans laquelle nous sommes, ça va passer, nous allons continuer la vie.
Précisons que l'Union des étudiants des Katana UEK est une structure créée en 2004 qui organise plusieurs activités caritatives et des développements en faveur des populations locales et d'ailleurs. Et avec vous, Omer Mudekereza, au total 24 serviteurs des dieux ont été consacrés à différents niveaux du ministère pastoral lors d'une cérémonie organisée à l'église Gamaliel Temple située sur avenue Patrice Emery Lumumba en commune d'Ibanda le dimanche 12 avril 2026. Croire Bishop Biumanin et Jean-Baptiste, représentant légal de la communauté Assemblies of God International, parmi les consacrés figurent 4 pasteurs stagiaires, 4 pasteurs consacrés et 11 pasteurs évangélistes.
De ces nouveaux consacrés, l'on retrouve 3 femmes, ce qui illustre selon les bishops Biumanin et Jean-Baptiste une participation féminine notable dans l'œuvre pastorale. Dans son message, le représentant légal de la communauté AOG a exhorté les nouveaux pasteurs à répondre fidèlement à l'appel des dieux en s'appuyant aux saintes écritures. Il les encourage à travailler avec fidélité, honnêteté et dans la crainte des dieux, soulignant que le Seigneur les accompagnera et les honorera par sa gloire. Les bishops Biumanin et Jean-Baptiste en parlent.
Ils étaient au nombre de 24. Il y a 3 niveaux. Il y a les pasteurs consacrés, les pasteurs stagiaires, les pasteurs évangélistes. Nous avons consacré 4 pasteurs stagiaires. Nous avons consacré aussi 9 pasteurs consacrés et 11 pasteurs évangélistes. Bon, ces nouveaux pasteurs, nous les encourageons comme nous avons prêché et comme nous avons donné le mot de la fin comme recommandation, qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu, comme nous avons partagé dans la Bible, en Ésaïe 6, verset 8. Lorsqu'ils écoutent l'appel de Dieu, qu'ils répondent comme Ésaïe avait répondu, qu'ils s'appliquent maintenant à travailler fidèlement, honnêtement, en craignant Dieu, et Dieu sera avec eux, et Dieu va les honorer. Ils vont être élevés, ils vont aller de gloire en gloire pour la gloire de Dieu.
De leur côté, les nouveaux pasteurs ont exprimé leur engagement à servir Dieu avec fidélité et à œuvrer pour sa gloire. L'un d'eux, Kilumba Daniel, en parle dans cet extrait.
Nous allons nous donner corps et âme pour servir notre Dieu, pour servir aussi la communauté, tout en étant fidèle à notre engagement, mais aussi fidèle à Dieu. Nous allons aussi nous donner corps et âme, mais aussi avec dévouement, pour que l'œuvre de Dieu et l'expansion du royaume de Dieu soit effective dans le monde entier, au travers nous qui sommes ses serviteurs.
Ces événements s'inscrivent dans la dynamique de renforcement du leadership religieux au sein de la communauté chrétienne, a indiqué les représentants légal de la communauté Aoudji, les bishops Biumanine et Jean-Baptiste.
Toujours religion, mais à l'international, dans le cadre de son long voyage apostolique sur le continent africain, dont la première étape est l'Algérie, le pape s'est rendu dès son arrivée à Alger, lundi 13 janvier, au mémorial des martyrs. Devant ce lieu emblématique de l'histoire du pays, il a rendu hommage aux combattants de l'indépendance et lancé un appel fort à la paix, au pardon et à la fraternité entre les peuples. Le Saint-Père a salué le peuple algérien avec des paroles de fraternité, je cite, que la paix soit avec vous tous. Assalamu alaikum. Fin de citation. Par cette salutation, le pape se fait messager de paix auprès du peuple algérien et se présentant avant tout comme un frère, il a exprimé sa proximité avec une nation qu'il décrit comme un peuple fort et jeune, marqué par l'hospitalité et la fraternité. L'Algérie compte environ 9000 catholiques sur les 47 millions d'habitants. C'est la toute première fois qu'un souverain pontife se rend en visite officielle dans ce pays. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, l'US Bilombe retrouve le FC Tiriri Sport mercredi 15 avril en finale du championnat de l'entente urbaine des football de Bukavu, saison sportive 2025-2026. Les deux équipes ont obtenu leur qualification au terme des matchs de demi-finale disputés dimanche 12 avril à Bukavu. Tiriri Sport s'est qualifié en battant le FC Kivu sur le score de 2-1. En revanche, l'US Bilombe a barré la route à l'AS Ruzizi en s'imposant en demi-finale sur le score de 2-0. La finale se dispute mercredi 15 avril à partir de 15h au stade de la Concorde de Kadutu. D'une entité à une autre, le FC Maloua est sacré champion de l'entente urbaine des footballs de Kamituga pour la saison sportive en cours. Maloua a battu en finale dimanche 12 avril l'AS Kasmes sur le score de 2-1. La finale s'est disputée au stade de Katunga. Nous sommes donc dans la ville de Kamituga.
La revue de presse. Radio Maïndélé au Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Le pillage de la radio communautaire Ziralo FM située à Calais en province du Sud Kivu et la sensibilisation des étudiants sur comment transformer les défis climatiques en opportunités économiques à travers l'entrepreneuriat vert font partie des sujets commentés par la presse lundi 13 avril 2026. La revue de presse avec Myriam Moufano.
Débutons cette revue de presse par jambo-rdc.info qui écrit « La radio communautaire Ziralo FM, située à Calais au sud Kivu, a été vandalisée et pillée lors des affrontements opposant les FARDC et leurs alliés Wazalendo aux ennemis de la FSM-23 au début du mois d'avril. Ces combats survenus autour du centre des Tshushunguti ont causé d'importants dégâts matériels et une insécurité persistante dans la zone. Entre le 7 et le 10 avril 2026, les installations de la radio ont été saccagées et une grande partie de son matériel volé ou détruite. C'est comme par exemple un mixeur, un ordinateur, deux microphones et plusieurs batteries, tandis que le bâtiment lui-même a été endommagé. Le personnel, contraint de fuir les violences, ont abandonné la station, aggravant la situation. Ces médias poursuivent. Ces événements ont également provoqué un déplacement massif de la population locale. La destruction des IRAL-OFM représente une perte majeure pour la communauté, car cette radio jouait un rôle essentiel dans la diffusion de formations fiables, la sensibilisation et la lutte contre les rumeurs, conclut ce média. De son côté, radiouniversitaire.net indique que l'organisation Green Alpha a réuni divers acteurs, dont les étudiants, autour des enjeux environnementaux. Cette rencontre a mis l'accent sur la nécessité de transformer les défis climatiques en opportunités économiques à travers l'entrepreneuriat vert, en valorisant les ressources locales et l'innovation. À en croire ces médias, les échanges ont souligné des priorités clés telles que la promotion de l'entrepreneuriat vert, le développement d'une agriculture durable et le renforcement du réseautage entre jeunes, experts et investisseurs. Selon Chintoua légèrement contacté par ces médias, il est essentiel de passer à l'action afin de créer des projets durables capables de renforcer la sécurité alimentaire et de répondre aux effets du changement climatique, conclut radiouniversitaire.net. Bouclons cette revue de presse par rtnk.org qui écrit « La FENAFACO, coordination provinciale du CHUD Cuvo, dénonce les conséquences des hausses du prix du carburant sur les personnes vivant avec handicap à Bukavu. Selon cette organisation contactée par ces médias, cette situation entraîne un risque de restriction de déplacement en raison de l'augmentation du coût de transport en commun. D'après Jacques Namegabe, approché par rtnk.org, cette hausse affecte de manière disproportionnée les personnes concernées en limitant leur mobilité et en accentuant leur vulnérabilité sociale. Elle compromet notamment leur accès aux soins, à l'emploi et à la vie sociale, renforçant ainsi leur marginalisation. Face à cette situation, la FENAFACO appelle les autorités à prendre de mesures urgentes pour stabiliser les prix de transport et intégrer les besoins spécifiques de personnes handicapées dans les politiques publiques afin de garantir leur inclusion et d'éviter que cette flambée des prix n'aggrave davantage leur exclusion, conclut rtnk.org.
Par ici, prend fin à ce Radio Journal. Jean-Claude Ndaga assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation Expédie Kialou. Passez des bons moments en compagnie de Radio Madeleine. Au revoir.